Monsieur Robitaille, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, commençons donc avec, les spécialistes dans la tourmente électorale.
Oui, écoute, tu as fait toute une entrevue avec Diane Francœur tout à l'heure. Là, j'ai pu en écouter des extraits. Et pourquoi les médecins spécialistes annoncent ce plan-là? Est-ce qu'il y aurait un rapport avec la campagne électorale à venir? Moi, je pense qu'il y a un aspect politique à tout ça, c'est certain, parce qu'il y a quand même deux partis d'opposition qui les ont, les spécialistes, dans leur mire. Et les spécialistes, c'est 10 000 privilégiés au Québec. Là, quand on dit qu'il y a un 1 % quand on parle du 1 % puis du reste de la population, ben, les spécialistes, ils font partie de ce 1 %-là. Donc, la Coalition Avenir Québec estime que l'entente qui a été conclue en février avec les médecins spécialistes doit être rouverte, doit être renégociée. On peut aller chercher 1 milliard de ce côté-là, c'est la CAQ qui affirme ça. M. Legault l'a affirmé à plusieurs reprises. Je veux juste finir sur le Parti québécois, lui, qui dit « Nous aussi, on veut rouvrir l'entente, puis on veut geler la rémunération des médecins spécialistes. » Puis il dit ça depuis un bon bout de temps. Donc, Diane Francœur, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure à ce propos?
Bien, elle a dit, entre autres choses, ce qu'on pouvait déceler dans ses propos, c'est que oui, il y avait une connotation politique, parce qu'elle dit « On attend toujours les résultats de cette fameuse étude sur le comparatif de la rémunération entre les médecins du Québec et ceux des autres provinces, notamment ceux de l'Ontario. » Et elle disait, vous allez voir quand on va avoir ces résultats-là que, on ne va pas rouvrir l'entente le 2 octobre, là, à la suite de faisant référence, bien sûr, au fait qu'il y a une élection le 1er octobre. C'est clair qu'il y a une intention politique derrière le fait de dire, voyez là, on vous donne plus de services, mais on a une généreuse entente, mais regardez, on vous donne des services, tu sais.
Puis c'est ça, on recommencera pas la négociation, on veut pas ça, là.
Ouais.
Donc, et comme tu dis, elle affirme que l'entente de février a donné des ailes aux spécialistes.
Ouais.
Puis là, ils ont toutes sortes d'idées pour améliorer l'accès. Ça aurait pu venir avant, là, non?
Exactement, ça aurait pu les avoir
avant. On parle de jumelage entre les centres de soins qui manquent d'anesthésistes puis, et des équipes qui se trouvent dans les plus grands centres. Elle parle de... Il y a un plan à 14 points, là, étendre les heures d'ouverture des services d'imagerie. Bien, gardons ça, c'est une bonne idée. Multiplier les équipes interdisciplinaires pour les patients souffrant de maladies chroniques. On parle du lancement d'un plan de jumelage dont je parlais. Donc, c'est intéressant. Moi, j'aime toujours ça quand des fédérations de médecins qui, faut le dire, ce sont des syndicats, disent qu'ils vont donner plus de services puis qu'ils vont... surtout des gens qui reçoivent une rémunération aussi importante. Je m'abstiens de dire salaire parce que c'est pas un salaire. Justement, c'est pas un salaire.
Non, c'est une enveloppe de rémunération.
Exactement. Puis, ils sont souverains sur l'enveloppe.
Ouais. Et j'ai senti que Mme Francœur n'était pas très heureuse de ma dernière question, finalement.
Tu as eu une question malaisante, hein, d'après ce que j'ai compris. Tu lui as parlé d'une de ses proches
collègues
associés. Oui, c'est ça.
Exactement, parce que faut expliquer que dans cette négociation-là, il y avait une impasse à un moment donné. C'était Gaétan Barrette qui était responsable de la négociation. C'est pas lui qui négociait, là, c'était M. Charlebois, j'oublie son prénom.
Maurice.
Maurice Charlebois qui négocie, c'est le négociateur du gouvernement dans beaucoup de dossiers. Mais c'était chapeauté par Gaétan Barrette, puis ça allait nulle part. Alors, ils ont demandé à ce qu'on change l'interlocuteur. Alors, Philippe Couillard, qui soit dit en passant est un médecin spécialiste, c'est un neurochirurgien, a donné le mandat au secrétaire général du conseil exécutif, donc son ami Roberto Iglesias, qui lui aussi est un médecin spécialiste.
Ben oui, c'est la médicalocratie.
Exactement.
Tu sais, à un moment donné, au début du gouvernement Couillard, on disait qu'il était comme les trois mousquetaires. Il était quatre médecins spécialistes.
Oui, exactement.
Il était pas trois, il était quatre.
Alors,
il y avait Bolduc, Barrette, Couillard, puis il y avait Iglesias.
Exactement. Alors, Roberto Iglesias a négocié, a chapeauté, si on veut, ces négociations-là avec Diane Francœur. Diane Francœur qui était évidemment la négociatrice pour la FMSQ. Mais la fille de M. Iglesias, Marie-Hélène Iglesias, et gynécologue, elle aussi.
Ah!
Et elle fait partie du groupe d'affaires de Diane Francœur à la clinique Beaumont. Donc, elle travaille dans la même clinique que Diane Francœur.
Oui, c'est ça.
Alors, la question que je lui posais, c'est est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts là-dedans?
On peut peut-être réécouter la réponse.
Allons-y.
Sûr qu'on peut dire n'importe quoi. Alors, il y a des conflits d'intérêts perpétuels, mais effectivement, sa fille fait partie de l'équipe où je travaille. Mais je vous dirais que moi, je fais de la garde une fois par mois, les vendredis de nuit, le dimanche de jour.
Ouais.
Alors, mes contacts avec mon groupe sont quand même assez limités. Je ne suis pas à l'hôpital pendant la semaine. Je suis au bureau ici à préparer un plan d'action pour donner des soins aux patients québécois. Mais c'est sûr qu'on peut voir des conflits d'intérêts où on en veut, ça, il n'y a pas de problème. Je pense que celle-là, elle est allée chercher loin, là.
Alors, c'est des spécialistes qui négocient avec d'autres spécialistes. On peut même aller plus loin que ça. Le gendre de Roberto Iglesias, donc le mari de Marie-Hélène Iglesias.
Il est-tu médecin, lui aussi?
Il est radiologue à l'hôpital Sacré-Cœur.
Médicalocratie quand tu nous tiens.
Tu dis, à un moment donné, c'est des médecins qui négocient entre des médecins.
Ah oui.
Puis après ça, puis en fait, plus que des médecins, c'est des spécialistes qui ont négocié l'entente la plus lucrative de l'histoire avec... avec les médecins, la FMSQ, tiens, c'est dit, quelque part.
Ils ont laissé 3 milliards sur la table, Louis, arrête.
Ouais, c'est bien. OK, bon, en tout cas, mais je trouvais ça intéressant de le souligner dans l'entrevue, puis donner la chance à madame, parce que c'est quelque chose dont on avait entendu parler un peu.
Ah, ça circulait,
ça
hein?
circulait, alors là, au moins, on a une réponse
c'est
de madame Francaire.
C'est ça a circulé dans le bureau public. Où je suis, d'ailleurs, ça.
Oui, mais dans mon bureau, ça a circulé pas mal aussi. Bon, parlons de ces funérailles qui sont en cours actuellement. Là, ça a commencé autour de 11 heures cet après-midi, ce matin. Et là, ça se poursuit, les funérailles, bien sûr, de Paul. Et j'allais dire l'hommage qu'on rend à Paul Gérin-Lajoie.
Oui, c'est tout un hommage. C'est des funérailles nationales.
Ouais.
Donc, grand ministre de Jean Lesage dans les années 60, considéré comme le père du système d'éducation québécois. Il y avait eu un ministre de l'Éducation, à la fin du 19e siècle, mais en cette période d'ultramontaniste. On avait finalement cédé, le gouvernement avait cédé devant les curés, puis il avait abandonné le ministère de l'Instruction publique, comme on l'appelait à l'époque.
Ouais.
Et il a fallu attendre aux années 60 pour qu'il y ait un ministère, que l'État se donne, au fond, un ministère digne de ce nom.
Mm-hmm.
Et c'est Paul Gérin-Lajoie qui a été le premier, qui a beaucoup, beaucoup travaillé à rendre l'éducation gratuite, accessible. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a travaillé à d'autres plans, Paul Gérin-Lajoie. Il y a son fameux discours devant le corps consulaire, c'est-à-dire tous les consuls de Montréal et du Québec, donc les représentants des gouvernements étrangers, où il a affirmé qu'il y avait une doctrine en relations internationales du Québec, c'est que on sait qu'en fédéralisme canadien, il y a des compétences fédérales, il y a des compétences provinciales. Or, les compétences provinciales, les deux principales, là, c'est santé et éducation.
Mm-hmm.
Ben, lui, il a affirmé à cette époque-là que on pouvait avoir un prolongement international des compétences du Québec à l'étranger, parce qu'on dans une fédération, les États sont des États fédérés,
oui.
Donc ils n'existent pas en vertu du gouvernement central comme dans un État unitaire, ils existent en soi. Et là, Gérin-Lajoie a développé cette doctrine-là, il était conseillé par André Patry, un grand juriste québécois, oui. Moi, que j'ai connu, un personnage fascinant. Et... Donc, cette doctrine-là est encore en place. La doctrine Gérin-Lajoie, on se souvient que Jean Charest l'a reformulé ainsi. Il disait ce qui est de compétence chez nous et de compétence partout,
oui.
Ce qui est une formule assez habile. Et ensuite, il y a toute l'action internationale de Paul Gérin-Lajoie, sa fameuse dictée aussi, mm-hmm. qui était un peu le prolongement de son œuvre éducative. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs personnalités qui lui ont rendu hommage à l'entrée des funérailles. On peut écouter M. Couillard, M. Legault et d'autres personnalités. On les écoute.
Probablement le grand bâtisseur de la modernité québécoise, c'est l'éducation qui a émancipé les Québécois dans les années 60, qui les a propulsés vers la modernité, il ne faut jamais l'oublier. Mais il ne faut pas oublier non plus son rôle en relations internationales, en développement international. C'est un grand homme de plusieurs façons et pour longtemps. Il y a deux choses, moi, qui m'ont touché hier, parce que je suis venu à la Chapelle Ardente, je voulais peut-être les relater, j'en parlerai peut-être un peu tantôt. D'abord, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes sont venus présenter leur respect. Également, sa famille, bien sûr, j'ai rencontré. J'ai vu au revers du veston, ceux qui ont vu hier le corps de M. Gérard Lajoie avait l'épinglette de la dictée. Et c'est une de ses petites filles qui a insisté pour lui mettre sur son veston. J'ai trouvé ça touchant comme épisode familial, disons, mais également qui parle à l'ensemble des personnes qui ont suivi la dictée.
Quand, par exemple, un ministre de l'Éducation va à l'international, bien, il parle au nom du Québec. Et donc, il n'y a pas de permission à demander à Ottawa. Donc, c'est un grand, grand nationaliste. C'est quelqu'un qui nous laisse grand héritage. Oui, c'est un fonceur. Et puis, bon, évidemment, tout était à faire. Et puis, il a développé un système, des écoles, entre autres, des polyvalentes. Moi, je viens de Saint-Anne-de-Bellevue, je me souviens, très jeune, d'avoir assisté à l'ouverture de la Cité des jeunes, qui était une des plus grandes polyvalentes. Je me souviens aussi, comme ministre de l'Éducation, d'avoir lu la dictée Gérin Lajoie, Paul Gérin Lajoie. Donc, non, c'est une personne que j'ai rencontrée à plusieurs reprises pendant les 3 années où j'étais ministre de l'Éducation. C'est un grand, grand homme, un grand Québécois.
Un visionnaire qui aimait beaucoup travailler en équipe, d'ailleurs, qui a donné énormément pour le Québec. Et pour nous, c'est vraiment important d'être là parce que le projet que portait M. Gérin Lajoie, tant au niveau de l'éducation de façon générale, mais aussi l'éducation à l'international, l'éducation populaire. C'était un homme qui avait une vision où ce que le peuple, la connaissance du peuple était centrale. Fait que pour nous autres, c'était super important d'être là.
Donc, on a entendu Manon Massé à la fin.
Exactement. Oui. Alors, des beaux hommages pour un grand disparu, puis... Mais dont l'héritage va demeurer,
je pense,
dans les relations, notamment les relations internationales, mais aussi, bien sûr, l'éducation au Québec.
Sa fondation aussi existe, a connu quelques problèmes dans les dernières années, mais on verra, là. Espérons que, justement, ça demeure, parce qu'il fait du développement, elle fait du développement international.
Ouais.
Je voulais juste glisser un mot d'un autre grand ministre.
L'autre grand disparu, Antoine, c'est John Chacha, l'ancien ministre libéral, qui est décédé à l'âge de 85 ans.
Ben oui, il a quitté la politique québécoise en 98, donc il y a des générations qui ne l'ont pas connu. Mais rappelons quand même que c'est un député libéral important. Et quand il se retire en 98, là, ben il était l'élu qui avait siégé le plus longtemps à l'Assemblée nationale du Québec. Je savais pas ça. Évidemment, depuis, le record a été battu, là, notamment par François Gendron, par Pierre Paradis aussi. En tout cas, il y en a quelques-uns qui y ont fait plus long. Mais c'est quand même 25 ans de vie politique dans le cas de M. Chacha, qui avait été, dans les années 70, sous-ministre de Jean Chrétien aux affaires indiennes, comme on disait à l'époque. Ouais. Ensuite, cette expertise-là avait été mise à profit par Robert Bourassa dans les négociations de la Convention de la Baie James. Après ça, John Chacha a été élu député de libéral en 73 une première fois. Et il y a des moments marquants dans sa carrière, là, puis c'est des moments marquants du Québec. Là. Par exemple, le projet de loi 22, la loi 22 de Robert Bourassa en 74, qui consacrait le français comme langue officielle du Québec. Donc ça précède ça, la loi 101 de 1977. Oui. Et... c'est une loi très importante. Ben, John Chacha s'était opposé tellement qu'il avait été exclu du caucus 2 mois. Autre moment marquant dans la carrière de John Chacha, la crise d'Oka, évidemment. Oui. On se souvient tous qu'il est lui, évidemment, à cause de son expertise ou grâce à son expertise plutôt dans les questions autochtones. Il était ministre des Affaires autochtones. Il y a eu la crise d'Oka le 11 juillet 90 après la fusillade et on lui avait reproché beaucoup d'avoir négocié avec un Mohawk masqué.
Qui était masqué.
Te souviens-tu de ça?
L'image était extraordinaire.
Toi, t'étais journaliste depuis très longtemps à cette époque-là.
À cette époque-là, ben oui. Ben, je faisais quelques années quand même.
Hey, t'as commencé jeune,
Patrick. Ouais, écoute, j'ai commencé...
Ben, t'avais le nombril.
J'avais 6 ans.
Je finis en disant que John Chacha a dit « La crise d'Oka a probablement été le moment le plus difficile que j'ai connu, mais le référendum de 95 est pas loin derrière dans cette liste. » Surtout qu'à cette époque, dans les années qui ont précédé, là, il y avait pas mal de libéraux qui étaient tentés même par la souveraineté du Québec. Et je l'ai revu. T'sais, je t'ai parlé du Mouton Noir, le film, le documentaire de Jacques Godbout récemment. Quand j'ai revu ça, je me suis rendu compte à quel point il y en avait... C'est fou. Mm-hmm. Et donc, ça a été très dur pour les John Chacha et Claude Ryan, qui étaient des inconditionnels du fédéralisme canadien.
Il y avait un excellent petit journal qui s'appelait un petit journal politique engagé, là, qui s'appelait Le Mouton Noir aussi. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
Ah ben oui.
Et qui était publié,
est-ce que ça n'existe pas encore?
C'est une sorte de
journal
de pamphlet, en fait.
Canard enchaîné.
Exact, oui.
Ouais, québécois, oui.
Oui, oui, oui. C'était pas publié dans la région de Rimouski.
Oui, c'est ça. C'était en région, effectivement. Oui.
Mais c'était bien fait, c'était bien écrit. Ça existe encore. En tout cas,
Je pense que ça existe encore.
Il y a encore, oui, un site Internet, effectivement, qui s'appelle lemoutonnoir.com.
Voilà.
Bon.
On ira le lire, puis on en reparlera.
C'est ça, une autre fois. Il nous reste demain.
C'est notre dernière demain.
Demain, c'est notre dernière, c'est ça.
Parce que tu t'en vas en vacances.
Oui. Oui, je m'en vais en vacances.
Bon, t'en irais-tu à Côte-Ouest, par hasard?
Laquelle Côte-Ouest? Il y a plein de Côte-Ouest. mettons un lac, là, il y a une Côte-Ouest éventuellement. Bon, le PDG d'Hydro met le gouvernement Couillard en colère. On en parlait hier, mais là, ils sont vraiment à couteau tiré, là.
Ben oui. Puis ce matin, il y a eu un article qui a été qualifié par certaines personnes d'impressionniste, d'un reporter de la presse, de Denis Lessard, qui dit que Pierre Moreau aurait même dit, s'il n'en tenait qu'à moi, il y aurait un décret pour destituer Éric Martel. Éric Martel, le PDG d'Hydro.
Ouais.
Alors, c'est quelque chose, là. J'ignore si c'est vrai, mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement est fâché. Et donc, Éric Martel, pourquoi lui? C'est parce que comme PDG, il résiste à approuver, à accepter le projet éolien Apuyat. On en a parlé hier, gros projet sur la Côte-Nord qui permettrait d'unir une partie de la nation Innu qui est divisée en 9 communautés, mais ça coûterait cher. À quel prix on ferait ça? Hydro-Québec s'engagerait à acheter aux Innu, et il le faut le dire, à Boralex, qui est une compagnie qui fait des parcs éoliens, 25 ans d'électricité. Éric Martel, dans une lettre qu'on a obtenue, nous, au Journal de Montréal, qu'on a publié, dont on a publié des extraits hier, puis qu'on a publié tout à l'heure en ligne, ben il doute de la rentabilité, non seulement de la rentabilité, il dit, il affirme que ça occasionnerait des pertes pour Hydro-Québec entre 1,5 et 2 milliards sur 25 ans.
Ouais.
Alors, et en plus, acheter de l'électricité, tu sais, alors que tu as des surplus pas possibles, la vérificatrice générale, je te rappelle, Louis, au mois de mai, prévoit que des surplus énergétiques annuels oscillant entre 9,3 et 13,3 tétrawatt-heure au cours des 10 prochaines années. Donc, on a en masse, tu sais. T'as beau dire, mettons, j'aime le beurre d'arachide. Si quelqu'un te dit, je veux t'en vendre, oui, mais j'en ai plein déjà dans ma dépense, tu sais.
Oui, mais c'est pas grave, tu vas en acheter pareil.
Tu vas en acheter pareil. Mais là, ça a l'air anodin ce que je dis, mon exemple, mais c'est comme si l'achat supplémentaire, ça commencerait vraiment à casser ton budget, là.
Ça. Tu vas en acheter pareil parce que l'épicier, il a besoin de ton argent.
Ben, c'est ça.
C'est exactement ça, le parallèle.
Donne à IGA.
Ouais.
Ben, ici, on enveloppe ça dans des considérations de développement régional, de progrès pour la nation Innu, puis je pense que tout le monde veut le progrès de la nation Innu, mais dans la lettre même d'Éric Martel du CISOU, il est écrit carrément que les propositions actuelles du contrat, j'ouvre les guillemets, là, ne permettent pas de conclure que l'entente de gré à gré offrira une réelle participation Innu dans les bénéfices. Ça traduit là, en termes clairs, c'est que les Innu vont être une sorte de façade pour l'entreprise privée qui, elle, va faire le gros de l'argent.
Exact.
Ça contredit toutes les prétentions du gouvernement et c'est pour ça que le gouvernement est en furie après Éric Martel et songe peut-être à le destituer ou à le relever de ses fonctions, mais peuvent-ils le faire?
Mais là, il reste presque plus de temps, là, s'ils font
ça. Ça serait fou dans le dernier mois.
Ouais.
T'imagines, tu congédies le patron d'Hydro. En tout cas, et pour toutes sortes de raisons techniques, c'est le conseil d'administration qui doit se pencher là-dessus, qui doit trancher. Parce que dans d'autres cas d'éoliennes, là, Louis, là, le gouvernement peut décréter. C'est facile de prendre un décret au conseil des ministres.
Exact.
Mais là, ils ont besoin de l'appui du conseil d'administration parce que ça passe par Hydro-Québec Production.
Il faut que ce soit une entente entre Hydro-Québec Production
Et Boralex et les Innus. C'est ça qu'il essaie de négocier actuellement, puis qui est dans l'impasse, puis M. Martel, il le dit dans sa lettre. Ouais. Alors, là, c'est dans l'impasse, la négo. Le gouvernement voulait annoncer le 8 août. On est le 9, je pense, là.
Oui, parce que demain,
donc,
c'est le 10.
Ouais, c'est
je
ça.
M'en vais en vacances, comme tu
t'en
le sais.
Sur la côte ouest.
D'un lac quelconque.
Oui. En tout cas, la réaction de la CAQ est très intéressante. On dit que, au fond, on demande au gouvernement de réitérer sa confiance en Éric Martel ou non. Et là, j'ai pas eu d'écho, j'ai pas eu de réponse, en tout cas, là-dessus. Et on dit à la CAQ, le pire, c'est que c'est Éric Martel actuellement qui suit le plan stratégique d'Hydro-Québec, qui est de faire grandir ou faire croître les bénéfices.
Ouais.
Parce que si on donne 1,5 milliard sur 25 ans à un projet d'électricité dont on n'a pas besoin, ben c'est les profits d'Hydro-Québec qui sont entamés à ce moment-là. Parce que ça passe aussi par Hydro-Québec Production. Si ça passait par Hydro-Québec Distribution, je sais que c'est compliqué et technique, là, mais on pourrait mettre ça finalement dans les tarifs d'électricité, puis ça serait plus caché de cette façon-là. Là, c'est difficile à cacher, puis c'est ce dont Éric Martel et sa garde rapprochée, c'est ce qu'ils craignent actuellement.
Ouais. Et on a essayé d'avoir M. Moreau aujourd'hui... en onde pour nous expliquer sa position puis son point de vue sur cette espèce de confrontation ou bras de fer entre le gouvernement et Hydro-Québec, puis M. Moreau, qui est aux funérailles de Paul Gérin-Lajoie.
Ah, il peut pas.
Il peut pas. Alors, ce sera peut-être un autre jour. Peut-être demain. On verra.
Auras-tu d'autres entrevues là-dessus?
Oui, stay tuned, comme on dit en latin.
Ben, c'est bon. En tout cas, pour démettre un président, un PDG d'Hydro, parce qu'il ne faut pas confondre entre le PDG et le président du conseil. Le président du conseil, c'est Michael Penner, proche de Philippe Couillard, et il a participé à la course à la chefferie, il était aux côtés de M. Couillard, mais en même temps, lui, il doit prendre une décision avec les 14 membres du conseil d'administration, mais sous recommandation du PDG.
Exact.
Puis là, dans un communiqué récemment, le conseil d'administration a dit qu'il faisait pleinement confiance à M. Martel. Et le gouvernement dit non, faites pas confiance à M. Martel. Hey, ça commence à être compliqué.
Exact. On se reparle demain, mon très cher ami, pour la dernière de la semaine et des vacances, en fait.
Ça me fera grand plaisir.
D'accord.
Et je te dis un beau au revoir.
À demain.